bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions cette matinée en invoquant l'Esprit Saint. C'est lui le maître intérieur, c'est lui qui intérieurement nous instruit. Et les paroles extérieures que je prononcerai, que vous entendrez, ne porteront du fruit que dans la mesure où intérieurement l'Esprit Saint enseigne, grave en notre cœur ses paroles et transforme nos vies. C'est pour cela que nous allons maintenant l'invoquer. Alors que s'est achevé ce mois qui t'est consacré, le mois de mai, alors que nous sommes avec les apôtres au Cénacle en attendant l'Esprit Saint et la Pentecôte, c'est vers toi que nous nous tournons pour accueillir avec toi ce que le Seigneur nous donnera.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.
Rapidement me présenter pour que vous sachiez un petit peu quelle est la personne qui s'adresse à vous. C'est toujours plus agréable de pouvoir remettre dans un itinéraire de vie. Et puis ensuite, je vous parlerai du cœur de Jésus, de l'appel à la mission qui retentit pour la France, à l'invitation du pape François, à l'invitation du pape Léon XIV. Voilà, je m'appelle Étienne Kern, je suis prêtre de la communauté d'Emmanuel, prêtre du diocèse de Paris. Les prêtres de l'Emmanuel sont des prêtres diocésains. Je suis originaire de Nancy, ça fait 20 ans que je suis prêtre. Voilà. Après mon ordination en 2005, j'ai été envoyé en mission dans la proche banlieue parisienne avant de partir au Brésil, à Salvador de Bahia, où j'ai été curé pendant 6 ans dans la favela Notre-Dame des Alagados. Je suis revenu en France après un temps sabbatique à Nazareth pendant 6 mois, qui fait véritablement partie pour moi de cette mission au Brésil pour me reposer auprès de Marie et contempler la vie cachée de Jésus à l'école de Saint Charles de Foucault. Et après ce temps à Nazareth, je suis arrivé comme curé à Aix-en-Provence, voilà, où je suis resté 4 ans. Et depuis 3 ans, depuis septembre 2022, je suis recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Et je viens à cette mission comme recteur auprès du Cœur de Jésus, chargé de tout ce qui a été mon itinéraire précédent. Vous voyez, ce qui est aussi la réalité de nos vies, un peu comme l'eau qui passe dans la montagne et qui va jaillir à la source, mais chargée de tous les minéraux qu'elle a, qu'elle a traversé au flanc de la montagne. Et donc c'est avec tout cela aussi que je m'adresse à vous. Depuis 3 ans, en fait, j'ai accompagné la préparation du jubilé des 350 ans qui a commencé il y a bientôt un an et demi, le 27 décembre 2023, qui est la date anniversaire des 350 ans de la première apparition principale de Jésus à Sainte Marguerite Marie, et que je vais vous présenter. Ce jubilé a duré tout au long de 2024, commémorant la deuxième apparition principale, celle de 1674, et le jubilé va s'achever à Paray-Monial le 27, 28, 29 pour les fêtes du Sacré-Cœur, marquant l'anniversaire de la troisième apparition principale. Jusqu'à hier, je ne savais pas bien comment commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Et puis le pape Léon XIV m'a aidé parce qu'il a écrit une lettre à tous les évêques de France et à travers eux à tous les catholiques français, à tous les Français, qui me semble introduire parfaitement ce thème d'aujourd'hui à l'école du cœur de Jésus et de Sainte Marguerite Marie. Cette lettre a été écrite, vous pouvez la trouver très facilement sur Internet, hein, il suffit d'aller sur Internet, faire lettre du pape aux Français, puis vous allez trouver immédiatement. Cette lettre, en fait, commémore les 3 anniversaires des canonisations de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean Eudes, qui ont été canonisés en 1925. Et il dit qu'il y a un point commun entre ces 3 saints, c'est qu'ils ont aimé sans réserve Jésus, qu'ils ont fait l'expérience de sa bonté, de sa tendresse, dans une particulière proximité quotidienne, et ils en ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Et donc le pape nous invite, nous catholiques français, à nous souvenir de ce que nous avons vécu, de la grâce que nous avons d'avoir autant de saints, notamment ces 3-là, en terre française, et de pouvoir, à partir de là, redéployer la mission en France. Donc c'est un vrai encouragement à vivre la mission à l'école de ces saints. Et ensuite, le pape Léon XIV fait mémoire de cette encyclique d'Ilexit Nos, Il nous a aimés, qu'a écrit le pape François, que le pape Léon XIV présente comme un testament. Alors je ne sais pas si vous savez que le pape François, le pape écrit des encycliques, donc c'est les textes majeurs du pape, que le pape François en a écrit 3, qui sont Laudato Si sur l'écologie intégrale, Fratelli Tutti sur la fraternité universelle, et quelques mois avant de mourir, il a écrit Dilexit Nos, Il nous a aimés, sur la dévotion au Sacré-Cœur pour honorer le jubilé des 350 ans. Et si je pourrais avoir un peu de jalousie de voir que le pape écrit pour le centenaire de la canonisation de ces 3 saints en 2025 et que François ne l'a pas fait en 2020 pour le centenaire de la canonisation de Sainte Marguerite Marie, il y a donc 5 ans, je me console en me disant que de toute façon il a quand même écrit une encyclique sur le sujet et que ça vaut bien toutes les lettres que l'on peut écrire par ailleurs. Ce texte est comme un testament, c'est comme la clé de voûte, c'est comme la clé de lecture du pontificat. C'est comme si le pape nous disait, en fait, ce dont je vous parle depuis 12 ans, c'est du cœur de Jésus. Quand je vous dis que le style de Dieu, c'est la proximité, la tendresse et la compassion, en fait, je vous parle du cœur de Jésus. Parce que la tendresse du cœur de Jésus, c'est sa douceur. La proximité, c'est l'humilité et la compassion du cœur de Jésus. Et le pape Léon XIV cite l'encyclique d'Ilexit Nos. Du coup, je vais citer Léon XIV qui cite François. Un fleuve qui ne s'épuise pas, qui ne passe pas, qui s'offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. C'est pratiquement une des dernières phrases, au numéro 219, une des dernières phrases de l'encyclique. Et bien évidemment, puisque cette lettre s'attache à commémorer le centenaire de la canonisation de ces 3 saints, Saint Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Jean Eudes, et bien il montre comment est-ce qu'ils ont vécu cela, et notamment à l'école du cœur de Jésus, puisque Saint Jean Eudes est le premier saint à avoir célébré une messe en l'honneur du Sacré-Cœur, 1 an avant les apparitions de Paray-le-Monial, c'était à Paris. Paray-le-Monial, c'est en Bourgogne, il n'y a pas de relation directe entre ces deux événements, si ce n'est de voir que, secrètement, le Seigneur a préparé la France à accueillir les révélations du Sacré-Cœur, en 1672, pour Saint-Jean-Eudes. Et puis ensuite, il rappelle que Saint-Jean-Marie Vianney est profondément un apôtre du cœur de Jésus, lui qui a dit que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, phrase qui est citée par le pape Léon dans sa lettre aux catholiques français. Et bien évidemment, à la suite du pape François, le pape Léon rappelle que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu cette science de l'amour, est une apôtre du Sacré-Cœur. Et vous savez que dans cette encyclique Dilexignos du pape François, le pape parle plus, cite plus Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que Sainte Marguerite Marie. Pourtant, celle qui a eu les apparitions du Sacré-Cœur, c'est pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Sainte Marguerite Marie. Mais en fait, la manière dont nous recevons aujourd'hui la grâce du Sacré-Cœur, c'est à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est pour cela que le pape François nous met comme modèle non seulement Marguerite Marie, mais aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors comme je ne suis pas le recteur de Lisieux, je ne vais pas vous parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vais vous parler de cette grâce extraordinaire qui a été vécue à Paray-le-Monial. Je vous dis que c'est une grâce extraordinaire parce qu'elle est souvent méconnue ou mal connue. Elle est mal connue parce que la compréhension du message de Paray-le-Monial a été comme parfois cachée ou détournée au cours des siècles. Et puis elle est mal connue aussi parce qu'elle est inconnue, c'est-à-dire que simplement en France, on l'a oubliée. Lorsque je présentais cette grâce de Paray-le-Monial à des membres de la communauté d'Emmanuel qui sont responsables auprès des jeunes, et qui organisent régulièrement des événements à Paray-le-Monial pour les jeunes qui viennent dans le cadre de la communauté d'Emmanuel, il me disait, mais en fait, nous sommes assis sur un tas d'or que nous ignorons. Et je leur dis, eh bien exactement. Et même des personnes qui viennent à Paray-le-Monial plusieurs fois par an, depuis plusieurs dizaines d'années, finalement ignorent encore ce trésor extraordinaire de l'expérience de Marguerite Marie, il y a 350 ans. Et lorsque le pape François nous invite à, je le cite, « rendre grâce au Seigneur pour les merveilles reçues en France », non pas pour une nostalgie du passé, mais bien pour pouvoir en vivre aujourd'hui, pour réveiller l'espérance et susciter un nouvel élan missionnaire, eh bien il s'agit aussi de ce que nous avons reçu à Paray-le-Monial. Si vous avez un peu parcouru cette encyclique Dilexignos du pape François sur le cœur de Jésus, vous ne pourrez être que marqué par l'importance des auteurs français qui sont cités dans cette encyclique. Il y a un moment, ça n'en finit pas. Ça commence avec Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales, bien évidemment, que nous vénérons ici, mais qui vient comme préparer Sainte Marguerite Marie, qui va naître 25 ans après sa mort et qui aura la vision du Sacré-Cœur plus de 60 ans après la fondation de l'ordre de la Visitation. Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière, qui est le jésuite qui va accompagner à Paray-le-Monial Sainte Marguerite Marie, et puis ensuite ça continue avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Charles de Foucault, Saint Vincent de Paul, et oui, ça n'en finit pas. Et en lisant cela, je me suis dit, mais nous Français, allons-nous enfin nous réveiller? Allons-nous percevoir qu'en fait, nous sommes dépositaires d'une grâce, non pas pour nous en glorifier, mais comme une responsabilité. Et en voyant la manière dont les Espagnols aujourd'hui accueillent la grâce du Sacré-Cœur et y répondent, je me dis que si les Français n'en faisaient que le quart de la moitié, eh bien nous serions déjà beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire que il y a là un trésor, et c'est lié aussi à notre histoire et aux blessures de notre histoire, aux méandres de notre histoire française, qui est magnifique, qui est belle, mais qui est aussi blessée dans son rapport à la foi et peut-être au Sacré-Cœur. Eh bien, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons plus de mal aujourd'hui à redécouvrir la puissance de cette grâce. Or, il y a un enjeu pour cela. Et la meilleure manière d'actualiser le Sacré-Cœur, c'est de revenir à la source, c'est-à-dire l'expérience de Sainte Marguerite Marie. Et c'est pour cela que je voudrais vous le raconter. Non pas seulement l'évocation de l'histoire du passé, mais le témoignage d'une expérience présente. Non seulement pour que vous veniez à Paray-le-Monial, je sais que le diocèse d'Annecy est déjà venu en Paray-le-Monial et que son évêque, Monseigneur Le Sceau, merci beaucoup d'être présent, Monseigneur, viendra pour la fête du Sacré-Cœur, lui qui a été recteur il y a une trentaine d'années dans ce sanctuaire de Paray-le-Monial, donc particulièrement attaché. pas seulement pour que vous veniez à Paris Monial, même si de tout cœur je souhaite que vous y veniez parce qu'aujourd'hui de plus en plus de monde y vient et redécouvre ce trésor, mais aussi pour vivre ici, à Annecy, cette dévotion au Sacré-Cœur. Parce que Jésus n'a jamais dit « Venez à Paris Monial », à Sainte-Marguerite-Marie. Lorsque la Vierge apparaît à Lourdes, elle dit « Venez boire de l'eau de cette grotte ». Il y a une invitation au pèlerinage. Lorsque j'ai été à la rue du Bac encore récemment, c'est marqué « Venez prier au pied de cet autel ». Il y a une invitation au pèlerinage. À Paris Monial, il n'y a pas d'invitation au pèlerinage. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller. Mais ça veut dire qu'il y a une invitation, non pas « Venez à Paris Monial », mais « Venez à mon cœur ». Et le cœur de Jésus, nous le rencontrons dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est le lieu où nous pouvons rencontrer le Sacré-Cœur. Alors tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien évidemment, si vous étiez à Paris Monial, cela serait encore plus puissant, dans la mesure où il y a une grâce du lieu qui nous permet d'entrer, de plonger dans cette grâce. Mais finalement, c'est au cœur de l'Eucharistie, là où nous sommes, que nous pouvons expérimenter sacramentellement ce qu'a vécu mystiquement Sainte Marguerite Marie. Et ce dont je vais vous parler, qui peut paraître pour certains aspects un peu extraordinaire, en fait nous pouvons le vivre dans l'ordinaire de notre vie chrétienne. Et c'est tout l'apport de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui va vivre dans la simplicité du quotidien, elle qui n'a jamais eu de grande expérience mystique, cette grâce de l'amour du cœur de Jésus. Après cette introduction, j'entre donc dans le récit des apparitions et le témoignage de l'expérience spirituelle que nous pouvons vivre à l'école de Sainte-Marguerite-Marie. La première apparition principale, je parle d'apparition principale, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus, il y en a une trentaine, au moins, tel que cela transparaît dans ses écrits. La première apparition principale a eu lieu 2 années après son entrée au monastère. Sainte Marguerite Marie rentre à 24 ans à la Visitation de Paris Monial. L'année suivante, en 1672, elle fait ses vœux. Et en 1673, 14 et 15, ce sont les 3 apparitions principales. Le 27 décembre 1673, Sainte Marguerite Marie prie dans la chapelle. Le Saint-Sacrement n'est pas exposé, mais il est là dans le tabernacle. Sainte Marguerite Marie raconte « Il se présenta à moi et me fit reposer longuement sur son cœur, où il me découvrit les merveilles inexplicables de son amour qu'il m'avait tenu caché jusqu'alors. » Le 27 décembre, c'est 2 jours après le 25 décembre. Ça, c'est pas très compliqué. Enfin, moi, il m'a fallu quand même plus d'un an pour réaliser que l'expérience du cœur de Jésus est vécue au moment de Noël. Et que ce n'est pas pour rien. Parce que c'est bien un cœur de chair que Jésus va révéler, et c'est bien le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, que nous allons contempler. Le Concile Vatican II dira « Il nous a aimés avec un cœur d'homme ». Je reviendrai sur ce lien entre le Sacré-Cœur et l'incarnation, parce que nous sommes visités dans notre humanité par le Seigneur qui s'est approché de nous, de nos souffrances, de nos blessures, de notre mort pour nous rendre participants à sa victoire. Et qu'il y a là quelque chose de très incarné et de très concret que nous avons besoin d'accueillir aussi dans les tréfonds de notre humanité la plus concrète. Le 27 décembre, c'est également le jour de Saint Jean Évangéliste. Saint Jean Évangéliste, c'est l'apôtre du cœur de Jésus. C'est lui qui va parler du cœur de Jésus dans l'Évangile. À 2 reprises, au moins, en fait, à de très nombreuses reprises, parce que c'est vraiment la clé de lecture et le sommet de l'évangile selon Saint Jean. Mais lorsque Jésus dit qu'il va être trahi par Judas, Jésus est troublé en Jean 13 et dit « L'un de vous va me trahir ». Tout le monde se regarde un peu stupéfait de voir Jésus troublé et se demande l'un l'autre de qui s'agit-il. Pierre demande à Jean de demander à Jésus « Qui c'est ?» À l'époque, on mangeait semi-allongé, Jean s'incline sur la poitrine de Jésus et lui demande de qui s'agit-il. Et Jésus lui répond. C'est à ce moment-là que Jean reçoit le nom de disciple bien-aimé. Et ce qui est dit un peu comme en passant, en fait se révèle plus important. qu'un simple détail de scénographie du récit. Lorsque l'on parlera du disciple bien-aimé plus tard, on dira celui qui avait reposé sur la poitrine du Seigneur. Et les pères de l'Église vont lire ce repos sur la poitrine comme un repos sur le cœur. Et un certain nombre de mystiques, notamment des femmes, que le pape François prend le temps de citer assez longuement dans son encyclique, un certain nombre de femmes vont elles également vivre ce repos mystique sur le cœur de Jésus. Et donc lorsque Marguerite Marie expérimente la même chose, elle s'inscrit dans toute cette tradition spirituelle qui la précède. Elle confiera à son père spirituel, le père de Croisée, que ce repos a duré de longues heures. Et nous aussi, nous sommes appelés à venir nous reposer sur le cœur de Jésus. Parce que finalement, ce n'est que répondre à son appel dans l'Évangile. C'est la seule fois où Jésus parle de son cœur pour dire qu'il est doux et humble et inviter tout le monde avec ses fardeaux pour venir trouver le repos. Alors, je ne sais pas quels sont tes fardeaux. Peut-être est-ce le fardeau de tes péchés, du mal que tu as commis dans ta vie passée et qui te pèse sur la conscience. Peut-être est-ce le fardeau des souffrances de la vie, un deuil, peut-être un deuil non consolé, ancien ou plus récent. Ce peut être aussi le fardeau d'un échec, du chômage, ou bien d'un échec dans la vie professionnelle ou la vie ecclésiale. Un échec, c'est quelque chose que l'on a longuement porté et qui n'a pas donné le fruit que l'on attendait. Peut-être est-ce le fardeau de ce que tu fais. Simplement, tu es fatigué parce que tu fais beaucoup de choses. Et donc, tu es fatigué sous le poids du fardeau de la vie quotidienne. Peut-être es-tu fatigué par, non pas ce que tu fais, mais ce que tu devrais faire et que tu ne fais pas. Peut-être es-tu fatigué par les soucis de l'avenir, la préoccupation. Le pape François, dans son homélie aux prêtres à la messe chrismale de 2015, a fait toute une homélie sur la fatigue et le repos du prêtre. Mais vous savez que quand on écrit à des prêtres, en fait c'est pour tout le peuple chrétien. Quand on écrit à des consacrés, c'est pour tout le peuple chrétien. Quand on écrit aux laïcs, c'est pour tout le peuple chrétien. Le discernement du pape, qui moi m'a vraiment interpellé, est très profond sur ce dire, mais qu'est-ce qui nous fatigue et comment nous reposons-nous? Et parmi les fatigues, il cite un certain nombre de fatigues. Il cite aussi la fatigue de l'ennemi. Il dit, parfois, on est envahi intérieurement par un ennemi, quelqu'un qui nous a fait du mal, et on se venge intérieurement, ou on cogite dans notre tête pour savoir comment est-ce qu'on va réagir par rapport à lui. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais on cogite dans notre tête, bon, des tas de choses. Et puis le pape parle aussi de la fatigue de nous-mêmes. Parfois, nous sommes fatigants. Ça, c'est déjà aperçu qu'on est fatigant pour les autres, mais parfois on est aussi fatigant pour soi-même. Ben oui, parce que les autres, quand ils nous quittent, ils nous quittent, mais nous, on ne se quitte pas souvent. Et parfois, quand on est fatigant, on est aussi fatigué de nous-mêmes. Et le pape François fait cette remarque. Pour une large part, la fécondité de la vie du prêtre dépend de la manière dont il se repose. Et j'ai trouvé cela très éclairant, que la fécondité de notre vie chrétienne dépend de la manière dont on se repose. Qu'est-ce qui nous fatigue et comment nous reposons-nous? Et comment nous reposons-nous sur le cœur de Jésus? Un exemple parmi mille de personnes venues à Paray-le-Monial qui ont vécu cette expérience, c'est une mère de famille qui me dit, vous savez mon père, moi il y a 2 ans, j'ai perdu mon fils. Il est vrai que de par mon expérience personnelle, où maman a perdu son fils, moi-même ayant perdu mon frère, j'ai vu aussi ce que cela pouvait dire pour une mère que de perdre son fils. Et continue-t-elle, il y a 1 an, c'est mon petit-fils qui est mort, le fils de ma fille. Et vous savez, parfois, je suis comme folle de douleur et je n'arrive pas à me reposer. Qui suis-je pour parler ainsi? Mais je suis comme le fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici à Paray-le-Monial, j'ai compris qu'il y avait enfin un lieu où je pouvais tout simplement me reposer. C'est sur le cœur de Jésus. C'est la première expérience, une expérience de repos, une expérience de consolation. C'est aussi une expérience de guérison. Le pape François, qui décidément est un pape extraordinaire et qui mérite d'être mieux connu et mieux reçu, le pape François a invité souvent les personnes à approcher nos plaies de ses plaies, nos blessures de ses blessures, pour y trouver la guérison. Comme dit l'Écriture, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et nous trouvons dans la blessure du cœur de Jésus la guérison de nos blessures. Parce que, et je reviens sur le fait qu'il nous a aimés avec un cœur d'homme, l'incarnation, quand on regarde la passion de Jésus, on voit les blessures non seulement physiques, la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, etc., mais nous voyons également les blessures du cœur, la trahison. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être trahi. Il l'a été par son ami Judas. Judas est le seul à qui Jésus dise « mon ami » dans l'Évangile. Au moment même où celui-ci le trahit, c'est par un baiser que tu me livres. La blessure de la trahison. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui savent très bien ce que ça veut dire que d'être trahi. Le Seigneur n'est pas indifférent à nos blessures de trahison. Lui-même a eu le cœur transpercé par la trahison de Judas. Jésus sait ce que cela veut dire que d'être abandonné. Il l'a été par les apôtres au moment crucial, le plus difficile de sa vie, où il allait être arrêté, condamné, alors que tous avaient proclamé que jamais ils ne l'abandonneraient. Ils s'enfuirent tous. Peut-être toi aussi as-tu été abandonné, soit par tes parents, soit par ton conjoint, soit dans d'autres circonstances. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être condamné injustement. Il l'a été par Judas, par Pilate, qui par trois fois a reconnu « il n'y a rien de mal chez cet homme » et pourtant il l'a condamné. Peut-être toi aussi es-tu victime d'injustice. Et la manière humaine de réagir à l'injustice, c'est la colère. Peut-être y a-t-il en toi des colères parce qu'il y a une injustice, un cri que tu ne peux pas exprimer, ou que tu ne te donnes pas le droit d'exprimer, ou que l'on ne te donne pas le droit d'exprimer, ce cri de douleur et de crier pour que justice soit faite. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'avoir été condamné injustement. Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'avoir été rejeté. Il a été par la foule qui, une semaine avant, l'acclamait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » avant de vociférer « Crucifie-le, crucifie-le ». Le Seigneur sait ce que cela veut dire que d'être moqué, que d'être humilié, que d'être ridiculisé. Lui sur lequel les soldats ont craché. Lui dont on s'est moqué alors même qu'il souffrait. Alors nous pouvons expérimenter la puissance du cœur de Jésus en venant avec nos blessures près de ses blessures. Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse essuyer. Il n'y a pas d'échec que Dieu ne puisse relever. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Il n'y a pas de mort que Dieu ne puisse revivifier. Et quand j'évoque la mort, je parle pas seulement de la mort de nos proches, mais parfois de notre propre mort. Parce qu'il y a pu y avoir des événements dans notre vie où nous avons été comme mis à mort intérieurement. Et effectivement, quelque chose est mort en nous, et nous faisons comme semblant d'être vivants, parce qu'il faut bien donner le change auprès des autres. Mais à l'intérieur, on sait bien qu'il y a quelque chose qui a été nécrosé, qui est mort en nous. Soit parce que nous avons posé des actes graves, soit parce qu'on a posé sur nous des actes graves. Ce n'est pas seulement le mal commis, mais peut-être aussi le mal subi. Et je pense de manière toute particulière aux agressions sexuelles, dont on parle beaucoup, et heureusement. Et le Seigneur vient aussi visiter ce qui a pu se passer lorsqu'on a mis la main sur toi. On sait qu'il y a 10% de la population française qui a été agressée sexuellement pendant sa minorité. Ça fait combien parmi nous ? Combien parmi nous ont vécu ce traumatisme et n'ont peut-être eu personne auprès de qui parler ? Et lorsqu'ils ont parlé, effectivement, puisque les études révèlent que la plupart des personnes victimes parlent à un moment donné, n'ont pas été crues, n'ont pas été entendues, n'ont pas été protégées. Eh bien, le Seigneur vient aussi à la rencontre de ses blessures les plus intimes. C'est la grâce que nous pouvons approfondir à l'école du cœur de Jésus. Il n'y a pas de blessure que le Seigneur ne puisse guérir. Ça ne veut pas dire que cela se vive de manière magique, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu agit habituellement avec nous. Dieu peut donner de fait une grâce de guérison intérieure avec une certaine immédiateté. Mais même dans ce cas, et Dieu le fait, mais même dans ce cas, cela ne nous empêche pas de passer par un long cheminement de vérité, de consolation, de reconstruction, et que la foi chrétienne n'est pas là pour se substituer à ce long travail humain, mais de nous donner la force de l'affronter effectivement. Ensuite, le Seigneur déclare son amour à Sainte Marguerite Marie. Le 27 décembre, après avoir reposé sur son cœur, Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Cette déclaration d'amour, elle retentit au XVIIe siècle, où le catholicisme est très présent en France, mais il est malade. Il est malade du jansénisme, où Dieu est devenu très lointain, où Dieu est devenu un juge implacable, qui exigerait de notre part une vie morale impeccable, alors qu'en fait nous en sommes incapables. Et cela a provoqué une terreur dans le cœur des catholiques en France, et aussi un moralisme et un volontarisme. C'est-à-dire que la vie chrétienne se réduit à une morale et qu'il faut y arriver à la force du poignet. Tous les éléments de la vie chrétienne sont comme détournés, défigurés, et nous perdons de vue le vrai visage de Dieu. Le remède au jansénisme est donné par le Seigneur à part immoniale, c'est son cœur, où il rappelle la proximité et la bonté. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et de comprendre que nous n'avons rien à faire pour être aimés de Dieu, parce que l'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nous, mais dépend de lui, et que Dieu est fidèle. Ce qui dépend de nous, c'est d'accueillir cet amour et d'y répondre. Mais nous n'avons rien à faire, nous ne faisons pas le bien pour être aimés de Dieu. Nous faisons le bien parce que nous sommes aimés de lui. C'est une réponse. Et parfois nous nous épuisons à mériter. Et nous nous plaignons quand nous estimons être victimes d'injustice, parce qu'après tout ce qu'on a fait pour lui, quand même, il pourrait être un peu reconnaissant. Oublions que c'est exactement l'inverse. C'est quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, que quand même, nous pourrions être reconnaissants. Et que même si ce que nous faisons n'aboutit à aucune solution ou à aucun bienfait pour nous, mais de toute façon, nous ne le faisons pas pour notre bien, mais nous le faisons parce que nous sommes aimés, comme une réponse d'amour. C'est ce message de la miséricorde qui est redonné et qui sera redonné ensuite au cours des siècles, notamment à Sainte Faustine, qui s'enracine dans cette expérience spirituelle de Marguerite Marie et qui redonne pour aujourd'hui la miséricorde divine. Ensuite, ce 27 décembre, quelle troisième expérience que vit Marguerite Marie, elle a la vision du cœur. Elle a la vision du cœur blessé, surmonté de la croix, entouré d'épines, sur un trône de flammes. Et vient la première demande. Cette demande est d'honorer l'image du cœur de Jésus. Il y en aura cinq des demandes. Parce que le Seigneur exprime sa soif d'être aimé. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une souffrance et d'une plainte qui sera précisée par la suite. Parce que ce cœur, il est sur un trône de flammes. Parfois, on a un peu oublié les flammes, on a surtout retenu le sang, je vais y revenir, sur un trône de flammes avec la blessure du côté surmontée de la croix, entourée d'épines. Ce que sont les épines n'est pas précisé ce jour-là, cela sera par la suite. Mais il y a déjà cette demande d'honorer l'image en la portant sur soi, ça peut être la sauvegarde, par exemple, je sais qu'ici, à la visitation, il y a des sauvegardes, d'ailleurs, elles sont sur la petite table qui est là-bas, bon, sinon il y a les sauvegardes de Nantes, ou bien le scapulaire de Pellevoisin, où il y a des médailles, vous voyez. Porter sur soi l'image du Sacré-Cœur pour honorer en geste d'amour. Et puis, l'exposer publiquement dans la maison. C'est l'origine de l'intronisation. Moi, quand j'étais en Amérique latine, dans toutes les maisons de la favela, il y avait toujours le cadre du cœur de Jésus et le cœur de Marie qui était là dans le salon. Parfois on a gardé les coutumes, mais on en a perdu l'origine et le sens. Et puis au bout d'un moment, quand on perd l'origine et le sens des choses, eh bien on arrête de les vivre. D'où l'importance de le redécouvrir. Et le Seigneur fait une promesse à cette occasion, que les familles qui auront l'image du Sacré-Cœur dans leur foyer recevront une grâce de réconciliation et de fidélité. Ensuite, Marguerite Marie raconte « Il me demanda mon cœur, je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit. Il le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome, dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur, qu'il me remit dans la poitrine en me disant « Voilà une petite étincelle de mon pur amour, afin qu'elle te serve de cœur. » Je l'ai déjà dit, ce qu'a vécu mystiquement Marguerite Marie, nous ne pouvons pas le vivre habituellement de la même manière. Il y a quelque chose d'extraordinaire et peut-être aussi d'un peu unique dans ce qu'a vécu Marguerite Marie. Mais à travers le sacrement, les sacrements, nous pouvons vivre cela. C'est par exemple le sacrement de la confession, c'est le lieu où le Seigneur prend notre cœur et le plonge dans le sien. Vous savez que le fruit de la confession, ce n'est pas seulement le pardon des péchés, mais aussi une nouvelle effusion de l'esprit. Et donc, se réalise cette parole du prophète Ézéchiel, « J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit pour que vous marchiez selon mes lois. » Et ainsi, nous expérimentons la puissance de transformation de la dévotion au Sacré-Cœur. Lorsque nous mettons à l'école du cœur de Jésus, le Seigneur nous transforme. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre des dévotions, mais de vivre la dévotion, et là je reviens profondément à ce que saint François de Sales nous invite à vivre. Pour lui, le mot de dévotion, ce ne sont pas des pratiques dévotionnelles, mais c'est une vie spirituelle plus intense à l'école du cœur de Jésus. Et nous expérimentons la transformation du Seigneur. Le Seigneur prend notre cœur et le transforme. Parce que nous en faisons bien l'expérience, que nous n'y arrivons pas. Nous faisons bien l'expérience de notre cœur de pierre. Pardonner, c'est beau. Mais parfois, on n'y arrive pas. Vivre la douceur, la bonté, ne pas être jaloux, ne pas se refermer sur soi-même, ne pas être égoïste, ne pas juger, ne pas se comparer, ne pas se décourager. Il y a un moment, justement, nous expérimentons la dureté de notre cœur et nous pouvons nous en décourager et baisser les bras. Ou bien nous en accommoder et se dire que finalement, quand on est catholique pratiquant, on est quand même au-dessus de la moyenne et qu'une honnête vie chrétienne est peut-être un bon compromis entre l'idéal de l'Évangile et la médiocrité de notre vie. Mais le Seigneur mérite quand même bien mieux qu'une honnête vie chrétienne. En tout cas, c'est pas ça qui va mettre le feu au monde. Mais si nous laissons le Seigneur prendre notre cœur de pierre et le transformer et le rendre semblable au sien, alors nous expérimenterons la puissance du cœur de Jésus et cela rayonnera autour de nous. Parce que l'objectif de cette dévotion, de cette vie spirituelle à l'école du cœur de Jésus, c'est pas seulement que nous allions mieux, que nous soyons guéris de nos blessures dont j'ai parlé, pardonnés de nos péchés que j'ai évoqués, mais c'est que cela puisse rayonner. Saint Jean-Paul II disait « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. » Et lorsque Marguerite Marie expérimente la miséricorde du Seigneur, c'est une expérience qui n'est pas juste une expérience intime, mais qui devient immédiatement missionnaire. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, l'expérience de l'amour, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, le rayonnement. Vous voyez, c'est comme le cœur. Le cœur, le sang vient s'abreuver d'oxygène pour repartir nourrir tout le corps. Eh bien, c'est cette expérience-là. Nous approchons du cœur du Seigneur dans l'Eucharistie et nous sommes ensuite envoyés en mission. D'ailleurs, le mot de messe vient du dernier mot de la messe qui est « Ita missa est ». Allez-y, c'est l'envoi en mission. Si nous ne vivons pas l'Eucharistie comme cela, si nous nous préoccupons de manière exagérée de tous les détails liturgiques qui sont finalement secondaires, il suffit de vivre ce que l'Église nous demande, mais si nous laissons envahir par des tas de considérations, nous perdons le cœur de ce qu'est l'Eucharistie et le but de l'Eucharistie qui est de pouvoir rayonner. Le pape Benoît XVI dans son homélie aux jeunes à Cologne, avait utilisé la métaphore de la, peut-être certains parmi nous étaient à Cologne à ce moment-là, magnifique homélie, sur l'énergie nucléaire, et parlait de la fission nucléaire. Il disait qu'en fait, il y a eu une fraction de l'atome, et qu'ensuite, il y a une chaîne de transformation, voilà, comme dans la fission nucléaire. C'est le moment de la résurrection, où la mort est mise à mort, et la résurrection qui se vit dans le secret va rayonner avec l'Eucharistie, va rayonner dans l'ensemble de l'Assemblée chrétienne pour rayonner dans le monde. Eh bien, à chaque Eucharistie, nous célébrons ce cœur transpercé, symbole de mort, qui devient symbole de vie, jaillit l'eau et l'eau sang, c'est-à-dire la vie, l'eau vive qui jaillit du cœur transpercé. Et donc cette victoire intime qui ensuite rayonne dans l'Eucharistie, qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ, qui rayonne à notre tour sur l'Assemblée, puisque nous recevons aussi l'Esprit Saint et fait de nous le corps du Christ pour pouvoir mettre le feu au monde. C'est cette expérience du cœur transpercé qui devient immédiatement missionnaire. Ainsi s'achève la première apparition principale du 27 décembre 1673, avec ces paroles « Je veux faire de toi la disciple bien-aimée du Seigneur. » Ma disciple bien-aimée. C'est-à-dire qu'elle va devenir comme un nouveau Saint Jean. La deuxième apparition principale, pour ceux qui ont perdu un peu mon propos, j'étais à la première apparition principale, où j'ai évoqué quatre expériences, le repos sur le cœur, l'expérience de la miséricorde, la vision de l'image du cœur et le cœur transformé. La deuxième apparition a lieu le premier vendredi d'un des mois de 1674. Elle ne dit pas de quel mois il s'agit. Et donc, nous ne le savons pas, puisque la secte qui aurait pu le dire ne l'a pas fait. Ce jour-là, le Seigneur se présente à elle. Ceux qui ont déjà été à Paray-le-Monial, qui connaissent la fresque de la chapelle des apparitions, peuvent se représenter cette scène parce qu'elle est reproduite justement dans le cœur de la chapelle des apparitions. Le Seigneur apparaît en croix à la place des cinq plaies, cinq soleils brûlants. Et je compris, dit sainte Marguerite Marie, que la source vive de ces flammes était la plaie, la fournaise ardente du cœur. Il y a donc les cinq plaies, les deux plaies des mains, de la couronne d'épines, des pieds et du cœur, qui sont des brûlants, des soleils brûlants. Et je compris que la source vive de ces flammes était la fournaise du cœur. J'ai déjà beaucoup évoqué le feu, mais je tiens à y revenir. Le pape François aussi évoque le feu du cœur de Jésus dans son encyclique, parce que souvent on a fait de la dévotion au Sacré-Cœur une dévotion très sanglante, notamment au XIXe siècle. Et cela se comprend, parce qu'à la suite de la Révolution française, qui avait été un profond traumatisme avec de très nombreux sacrilèges de l'Eucharistie et meurtres de prêtres, il y avait un besoin de réparer et une douleur devant ce qui s'était passé. Mais il y a eu dans cette représentation très sanglante ou parfois un peu sanguinolente, selon un goût de l'époque qui aujourd'hui en France nous apparaît plutôt comme un mauvais goût et qui parfois peut nous éloigner un peu de la dévotion au Sacré-Cœur, il y a eu là comme un déséquilibre par rapport à l'expérience de Marguerite Marie. Parce que s'il n'est pas faux de contempler combien le Seigneur nous a aimés en donnant son sang pour nous, l'expérience de Marguerite Marie n'est pas celle-là. L'expérience de Marguerite Marie, c'est celle du feu. Ce n'est pas un cœur sanglant, c'est un cœur brûlant. C'est les flammes et le feu de l'amour de Jésus qui disent ce qui habite à l'intérieur de lui. Et c'est ce que va expérimenter en 1674 sainte Marguerite Marie. Je vous avais évoqué les plaies, les épines, pardon, qui étaient autour du cœur de Jésus, et ce qui apparaissait déjà comme une souffrance. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. À la deuxième apparition principale, ces épines commencent à être précisées. Je ne reçois en reconnaissance qu'ingratitude et méconnaissance. Ce qui est du vieux français, et indifférence. Le Seigneur se plaint des ingratitudes et des indifférences en réponse. Et il lui demande, est-ce que toi du moins, tu veux m'aimer? Il y a là toute la mystique de Paray-le-Monial. La déclaration d'amour, la plainte, ingratitude et indifférence. Il aime et n'est pas aimé. Et il ne demande pas. Est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer? C'est ce que l'on appelle la réparation, de rendre amour pour amour, d'aimer pour ceux qui n'aiment pas. Oui. Par exemple, vous connaissez certainement cette prière de l'ange de Fatima, que l'on récite souvent devant le Saint-Sacrement, mais qui s'inscrit vraiment dans cette veine de la réparation d'amour. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui ne vous aiment pas. Eh bien, c'est aimer pour ceux qui n'aiment pas. Alors Marguerite Marie lui dit, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Comment est-ce que je peux le faire? Je lui montrai mon impuissance. Il ouvrit son cœur, en sortit une flamme qu'il me mit dans la poitrine, en me disant, voilà de quoi suppléer à ce qui te manque. N'aie pas peur, je serai ta force. Écoute mes paroles et fais tout ce que je te dis. Rien que là, il y a quand même un petit joyau de la vie chrétienne. Oui, parfois, nous nous désolons de nos impuissances. Marguerite Marie la montre au Seigneur. Elle la reconnaît, mais elle ne s'en attriste pas. Elle la montre au Seigneur. Je lui montrai mon impuissance. Alors le Seigneur, qui est le Père des pauvres, vient donner l'Esprit Saint, le Père des pauvres, à celle qui reconnaît sa pauvreté. C'est cette flamme qui sort du cœur, parce que la flamme, c'est le feu de l'Esprit Saint. N'aie pas peur, je serai ta force. Écoute mes paroles et fais tout ce que je te dis. Et c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, pour peu que tu lui montres ton impuissance. Et le Seigneur lui indique trois moyens pour l'aimer en retour. Je rappelle qu'il y avait déjà une première demande qui était d'honorer l'image du cœur. En 1674, il y a trois autres demandes. La première, c'est de communier tous les jours. La deuxième, c'est d'honorer le premier vendredi du mois. La troisième, c'est de vivre l'heure sainte. Le premier vendredi du mois, c'est depuis cette apparition qui justement avait eu lieu le premier vendredi du mois, c'est depuis ce moment-là que la dévotion au Sacré-Cœur va être intimement liée au premier vendredi du mois. Et peut-être certains parmi vous connaissez cette antique coutume qui justement correspond à une demande, à une promesse de Jésus à Marguerite Marie d'aller pendant 9 mois d'affilée à la messe et de communier. Il ne faut pas voir là quelque chose de magique, comme une manière d'obtenir le ciel à bon compte et qui ensuite nous rendrait tranquilles. Et il faut voir là comme une pédagogie. C'est de pouvoir non seulement honorer le minimum indispensable qui est la messe du dimanche, mais aussi de pouvoir effectivement aller à la messe en semaine et déborder d'amour. Et en fait, quelqu'un qui vient pendant 9 mois d'affilée le premier vendredi du mois, s'il s'arrête ensuite, c'est qu'il n'y a pas été. Il y a été à l'extérieur, mais il n'y a pas été de l'intérieur. Parce que c'est justement en mettant en œuvre cette dévotion que peu à peu notre cœur s'enflamme pour aller toujours plus loin. Et puis, vivre l'heure sainte. L'heure sainte, c'est être uni à la mortelle tristesse que Jésus a ressentie au jardin de Gethsémani, la veille d'être arrêté, au moment d'être arrêté. Donc, l'agonie de Jésus, et Marguerite Marie va se réveiller toutes les semaines, dans la nuit du jeudi au vendredi, entre 23h et minuit, pour vivre 1 heure, pour tenir compagnie à Jésus et intercéder pour les pécheurs. Elle n'utilise pas l'expression, mais la tradition spirituelle le fera, elle, notamment avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cet appel à consoler Jésus. Cet appel à consoler Jésus, à être avec lui, alors même que les apôtres dorment. Vous n'avez pas eu le courage de veiller 1 heure avec moi. Et le pape François, dans son encyclique, va commenter cet appel à consoler Jésus. Et en disant que, en consolant Jésus, nous sommes consolés par Jésus pour consoler ceux qui, auprès de qui nous sommes envoyés. Cette spiritualité de la consolation que l'on reçoit à travers l'heure sainte. La troisième apparition principale, j'espère que vous me suivez dans le déroulé de mon plan et que ce n'est pas trop compliqué ce que je vous raconte. Il y a eu la première, il y a eu la deuxième, et maintenant la troisième. A eu lieu en juin 1675. Et là, tu te dis, mais nous sommes le 1er juin 2025, ça veut dire que nous entrons dans le mois des 350 ans. Exactement. C'est peut-être aussi pour ça que le pape François Le pape Léon a écrit aux maîtres évêques, ceci pour ça que le pape François nous avait donné comme intention de prière pour ce mois de juin de pouvoir être des missionnaires à l'école du cœur de Jésus. Vous savez que tous les mois, il y a une intention de prière qui est donnée par le pape et que l'intention pour juin 2025, elle concerne justement le cœur de Jésus. Ce jour-là, le Seigneur apparaît à Sainte Marguerite Marie devant le Saint-Sacrement exposé. Et il lui dit ces paroles qui vont comme résumer toute l'expérience de Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et qui n'a rien épuisé. Qui n'a rien épuisé jusqu'à se consommer par amour pour eux. Et qui en reconnaissance ne reçoivent de la plupart qu'ingratitude, sacrilège, mépris et froideur envers ce sacrement d'amour. Et ce qui m'est le plus douloureux est que ce sont des personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Les épines qui entouraient le cœur de Jésus et qui annonçaient la plainte douloureuse, laquelle plainte était déjà précisée avec les apparitions de 1674, ingratitude et indifférence, sont au cours de cette troisième apparition comme précisées. C'est ingratitude, mais aussi sacrilège, froideur, mépris envers l'Eucharistie, qui est le lieu propre des offenses envers le Seigneur, le sacrement d'amour. Et ce qui m'est le plus douloureux, que ce sont des personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Il y a un jésuite à la fin du XXe siècle qui a vécu à Paris monial, le père Édouard Glotin, qui s'est aperçu d'une coïncidence historique entre les apparitions à Paris monial et ce qui se passait à la même époque avec l'affaire des poisons à la cour de France. En fait, il y a une histoire tout à fait sordide qui a été un scandale d'État et qui a commencé en 1670 jusqu'à ce que l'on découvre le poteau rose en 1678, donc c'est exactement au moment des apparitions, sauf que personne ne le savait, parce que ça n'est révélé qu'en 78, et qu'il y a un procès retentissant en 1680 qui aboutit à des centaines de condamnations. De quoi s'agit-il? Il y a des sorciers, des sorcières, des prêtres, par jure, qui, au sein de la cour de France, vont faire fabriquer des filtres d'amour, des poisons, d'où le nom d'affaire des poisons, avec des meurtres, avec de l'adultère. Le roi Louis XIV est lui-même très fortement atteint, en fait, à travers Madame de Montespan, qui va, on ne sait pas si elle-même a cherché à tuer le roi ou à fabriquer les filtres d'amour parce qu'elle sentait qu'il était en train de s'éloigner d'elle. En tout cas, on sait que sa servante, Madame de Montespan, très certainement. Donc, vous voyez, on approche le crime de lèse-majesté. Et avec les premières messes noires qui ont été ritualisées à Paris, avec l'abbé Guibourg et une dizaine d'autres prêtres. Au cours de ces messes noires, il y a des profanations d'Eucharistie, c'est un culte à Satan sous l'égide de Judas, avec une part d'orgie sexuelle, d'agression sexuelle, de meurtre rituel de petit enfant, et je m'arrête là, parce que c'est encore plus glauque. On est vraiment au cœur des ténèbres de ce qui peut se passer dans une société humaine, et aussi de ce qui peut se passer avec des représentants de l'Église. Et c'est justement alors même que tout cela a lieu que Jésus apparaît à une petite femme de Bourgogne pour se plaindre des sacrilèges commis par des prêtres envers l'Eucharistie. Et c'est pour cela aussi que, au niveau du sanctuaire de Paris monial, voyant le scandale des abus sexuels auprès des enfants, où ce n'est plus seulement le corps eucharistique qui est profané, mais le corps des petits-enfants qui l'a été, que nous avons réentendu cet appel à la réparation. Et comment est-ce que ce que Jésus dit à Paris monial concernant l'Eucharistie peut guider l'Église aujourd'hui par rapport aux abus sexuels qui ont été commis en son sein? Alors je vous renvoie sur les actes du colloque, puisque le colloque a eu 30 intervenants. Les actes vont être publiés au mois de juin, donc dans 2-3 semaines. Voilà, il y a parmi nous des personnes qui ont participé aussi à ce colloque, puisque nous avons rencontré le pape François, et la supérieure d'Annecy, voilà, il y avait Marie Barbieri, etc. Bref, donc un certain nombre de personnes. Et le Seigneur adresse une dernière demande. c'est l'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Et c'est de là que vient la fête du Sacré-Cœur. Puisque au XIXe siècle, le pape Pie XI, en 1856, va instituer effectivement une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Cette fête a été instituée en réparation pour les outrages commis envers l'Eucharistie, pour réparer ce qui a été fait. Et c'est aussi cette demande qui va rendre la dévotion au Sacré-Cœur populaire. Comme je vous l'ai déjà dit, comme le pape François l'a rappelé, et puis ici à Annecy, il est impossible de ne pas s'en souvenir, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas née à Paray-le-Monial. Elle naît dans l'Évangile selon saint Jean, elle est portée par les pères de l'Église, par tous les saints et les mystiques, les théologiens, les religieux, saint Jean VIII, saint François de Sales, mais cette dévotion reste comme confinée à l'intérieur des monastères. À partir des événements de Paray-le-Monial, la dévotion au Sacré-Cœur devient populaire, c'est-à-dire qu'elle atteint, elle se répand dans toute l'Église, les familles, les paroisses, les diocèses, les pays, avec un succès peut-être inégalé. Et c'est ce qui fait que 30 ans après la mort de Marguerite Marie, par exemple, bien au moment de la peste de Marseille, en mai 1720, le Monseigneur de Belzunce va consacrer la ville et le diocèse pour être protégé de la peste. Et que le cardinal Aveline l'a rappelé au pape François, qu'il a également mentionné lors de sa visite il y a deux ans. C'est ce qui fait que la Pologne s'est consacrée en 1765 au Sacré-Cœur, et que cette dévotion va se répandre partout dans le monde. Alors, Sainte Marguerite Marie a dit, mais moi je fais comment pour faire instituer une fête en l'honneur du Sacré-Cœur? Bah oui, c'est gentil ça, parce qu'elle, c'est une femme cloîtrée en Bourgogne, ça fait quand même beaucoup d'obstacles pour pouvoir faire instituer une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Alors le Seigneur lui dit, je vais t'envoyer mon parfait ami et fidèle serviteur, qui est Saint Claude la Colombière, ce Jésus qui va venir authentifier, et cela vient vraiment de Dieu, encourager Sainte Marguerite Marie, et qui va par ses écrits et par ses paroles faire sortir cette dévotion du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial et faire connaître à l'extérieur ce qui s'est passé. Et cela va travailler le corps de l'Église pendant plus de 150 ans, jusqu'à ce que le pape effectivement demande, institue cette fête du Sacré-Cœur. Ça n'a pas été très efficace. Moi, si j'avais été le bon Dieu, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais ça nous arrive peut-être souvent de le penser secrètement, que si nous étions le bon Dieu, nous ne ferions pas comme ça. Sauf que le bon Dieu, il est souvent, quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est lui qui a raison, quoi. J'aurais été le Seigneur, moi je voulais avoir une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, j'apparais au pape au moment où il est réuni avec les cardinaux, je dis je veux une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, et puis le pape, clac, il signe le décret et c'est immédiatement mis en application. Ça n'a pas été très efficace, mais ça a été beaucoup plus fécond. Parce que cette demande qui sort de Paray-le-Monial, qui petit à petit va se répandre, va travailler le corps de l'Église de telle manière que les personnes, les prêtres, les évêques, l'ensemble du peuple chrétien se mobilisent et demandent cette institution, la fête du Sacré-Cœur, qui vient ensuite être couronnée par la décision du pape. Et donc, lorsque nous voulons que le pape ou les évêques fassent quelque chose, peut-être que la bonne technique, c'est pas d'exiger que le pape et les évêques fassent enfin quelque chose, parce que si ça va mal, c'est qu'ils font pas leur boulot, mais c'est plutôt à nous mobiliser en tant que peuple chrétien pour que cela contagie le corps, que cela se répande, et qu'ensuite les évêques et le pape puissent faire quelque chose comme une réponse à un désir qui habite effectivement le corps tout entier. Il y aurait bien évidemment tellement de choses à dire sur tellement de choses, puisque le cœur de Jésus, c'est vraiment le cœur de Jésus, et que c'est le résumé de la foi chrétienne, et que tout est contenu dans le cœur de Jésus. Et j'espère qu'à travers ces quelques balbutiements qui ont été les miens, où j'ai tenté de vous raconter ce qu'a été l'histoire et l'expérience passée et encore actuelle, eh bien que l'Eucharistie que nous allons vivre va être vécue différemment, comme une réponse d'amour à l'amour du Seigneur et l'expérience d'une miséricorde transformante. Je terminerai donc, et c'est la conclusion, en vous parlant de la consécration. Une des manières discernées dans l'histoire de la spiritualité pour rendre amour pour amour au Seigneur, c'est de se donner à lui, de se consacrer à lui. Cela peut se vivre au niveau personnel, mais aussi au niveau familial, au niveau paroissial, diocésain. Et pour cela, nous avons mis en ligne un parcours de préparation qui reprend une part de ce que j'ai dit, mais qui aussi aborde plus spécifiquement ce qu'est la consécration et comment la vivre et comment en vivre. Ce parcours est mis en ligne sur un site qui est accessible et gratuit, s'appelle seconsacrer.org. Alors, du coup, vous avez l'impression que je fais de la pub pour le site internet seconsacrer.org, alors que je ne suis pas du tout en train de répéter le nom du site seconsacrer.org. Et comme je vois que vous êtes un petit peu distrait par nos voisins du côté, je me permets quand même de le redire, qu'il y a ce site seconsacrer.org, sur lequel vous pouvez trouver ce parcours, mais aussi beaucoup d'éléments pour pouvoir vous consacrer en famille et vous consacrer en paroisse. Parce que parfois, le curé, il a le désir de se consacrer. Et moi, je bois un coup. Bonjour mon père, bienvenue. Donc parfois, le curé, il veut consacrer sa paroisse, mais il doit faire face à des résistances ou des incompréhensions de la part de ses paroissiens. Et bien sûr, le site, on donne des éléments au prêtre pour qu'il sache quoi faire par rapport à son conseil paroissial qui bloque un peu. Parfois, c'est l'inverse. C'est des laïcs qui disent « mais il faudrait quand même consacrer la paroisse au Sacré-Cœur ». Et puis là, ils se retrouvent avec un certain nombre de résistances ou d'incompréhensions de la part d'autres personnes ou bien du prêtre lui-même. Et le site internet donne des éléments de réponse parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes objections et les mêmes réponses à donner. Et donc tout cela, justement, dans cette optique, cette dynamique de pouvoir se consacrer, nous mettons au service de tous ce parcours de préparation pour pouvoir rendre amour pour amour et se consacrer au Seigneur. Ceci une démarche qui peut être vécue en famille. Je vous rappelle que c'est les couples qui consacrent leur famille et que parfois les couples sont divisés, ou bien que quelqu'un des deux est mort, ou bien divorcé au civil, et bien il est possible, même ainsi, de pouvoir consacrer sa famille dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, parce que le Seigneur, il est venu pour les blessés de la vie que nous sommes tous. Voilà bien, Seigneur, rends notre cœur semblable au tien, remplis notre cœur de ton amour, brûle-nous de ton amour, que dans cette Eucharistie que nous avons célébrée, nous puissions t'aimer en retour.
Ô Jésus, tu es...